On refait le match sur RTL
avec Florian Gazan.
Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour On refait le match. Et ce soir, bien sûr, on va refaire l'Euro et refaire nos bleus avec un petit bilan de ces trois matchs de poule qui posent quand même quelques questions et on va essayer, c'est notre boulot, d'y répondre. L'Euro qui rentre aujourd'hui dans sa phase la plus excitante, les matchs à élimination directe, avec le premier des huitièmes de finale qui a débuté il y a une heure entre le Pays de Galles et le Danemark. Le Danemark qui mène 1-0, but du Niçois Kasper Dolberg, ça vient de reprendre évidemment dès qu'il se passe quelque chose, on vous tient au courant. L'Euro toute la soirée aussi sur notre antenne avec dans une heure RTL Foot pour suivre l'autre huitième du jour à 21h, l'Italie face à l'Autriche. L'Italie, une des favorites pour succéder au Portugal, vainqueur en 2011 et qui pourrait pourquoi pas rencontrer la France si tout se passe bien pour les deux. À mes côtés ce soir en losange, façon Didier Deschamps, enfin je dis en losange, il change tout le temps de compo donc on va dire losange, mes quatre spécialistes, un petit accent de Copa América avec Cindy Colmenares de M6, bonsoir Cindy.
Bonsoir Florian, bonsoir à tous et aux supporters qui nous écoutent.
Exactement, bonsoir à tous, un petit peu d'Italie aussi, potentiel adversaire des Bleus en demi-finale, David Aiello de la chaîne L'Équipe, bonsoir David.
Bonsoir Florian, bonsoir à tous.
Lui en demi-finale face aux Bleus, il préférait que ce soit nos voisins belges. Stéphane Powels, bonsoir Stéphane.
Bonjour une fois.
Vous allez bien?
Mieux serait insupportable.
Bah très bien. Et enfin l'homme au regard aussi affûté que les abdos de Didier Deschamps, le procureur Gilles Verdez. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Ah bah tiens, but, regardez, but. Voilà, ça vient d'arriver. But du Danemark, 2-0. Bon, ça sent bon les quarts de finale. Est-ce qu'ils vont nous refaire le coup de 92, la Danish Dynamite?
Possible.
Possible. Gilles, donc bonsoir.
Bonsoir. Hein,
parce qu'on est coupé par les buts des Danois, donc vraiment
insupportable.
Insupportable.
Ils ont tous les droits.
Génial, ouais. Génial.
Mais c'est encore Dolberg, non?
C'est encore, on va voir ça. Sans oublier, vous qui refaites le match évidemment avec nous sur les réseaux sociaux, le compte Twitter, Facebook, RTL Foot avec Baptiste Durieux pour relayer vos avis et vos questions. Damien Béchiot à la réalisation, qu'on salue. Et un petit coucou au boss, hein, Christian Olivier, qui m'a laissé les clés du camion. Je vais essayer d'éviter la sortie de route. Vous êtes bien sur RTL et nous aussi, on y est bien avec vous.
Florian Gazan sur RTL.
On refait le match.
L'équipe de France donc affrontera la Suisse, vous le savez, en huitième de finale lundi soir à 21h. Avant de parler de ce match, de se demander si c'est une formalité ou pas pour nos Bleus, on va quand même revenir sur la phase de poule des Français. Vous allez me dire ce que vous retenez en positif et en négatif de l'équipe de France après ces trois matchs de groupe. Les Bleus sont-ils toujours favoris pour la victoire finale, hein? La France, seulement huitième meilleure attaque des poules. Alors, elle est où la meilleure supposée attaque du monde? On va en parler. Kylian Mbappé, 0 but en 3 matchs. Qu'est-ce qui se passe avec notre petit génie? Est-ce que ça peut devenir un problème pour les Bleus? Qui est le bleu qui vous a le plus agréablement surpris et celui qui vous a déçu? On parle également de la défense, hein. Lucas Digne qui est out pour une bonne partie de l'Euro. Lucas Hernandez avec un genou capricieux. On a appris tout à l'heure Jules Koundé pas bien non plus. Que doit faire Deschamps avec cette défense patraque? Et puis en fin d'émission, on balayera un petit peu l'actu foot avec notamment cette nouvelle idée de génie de l'UEFA. Génie avec des guillemets évidemment. La suppression du fameux but à l'extérieur qui compte double. Ce sont vraiment des idées géniaux dans les bureaux en Suisse. Mais on va commencer par une petite question toute simple, mesdames, messieurs. Sur ce que vous avez vu de la France jusqu'ici, est-ce qu'elle est toujours votre favori de l'Euro? Vous me répondez juste après une mini-pause. A tout de suite pour refaire le match sur RTL.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Florian Gazan sur RTL.
On refait le match sur RTL jusqu'à 20h avec Cindy Colmenares, David Aiello, Stéphane Powels et Gilles Verdez. Et on va commencer évidemment avec un petit bilan. On va soulever le capot des Bleus pour faire un diagnostic après 3 matchs de poule. Alors, après ce que vous avez vu de l'équipe de France, est-ce qu'elle est toujours votre favorite de l'Euro? Petit tour de table. On va commencer par vous, Cindy.
Alors, pour aller en finale, oui. Et je pense que, de façon générale, on l'avait vu déjà en 2018, il y a toujours ces rumeurs comme quoi, bon, est-ce qu'ils ont baissé les niveaux, etc. Moi, je pense que, collectivement, ils sont un souci. Moi, j'aimerais que la France s'inspire un peu plus de l'Italie. Parce que l'Italie, en ce moment, Mancini est toujours resté un peu sur ses idées. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'équipe, il est très à l'aise. Tandis que la France, on voit qu'il y a encore des difficultés entre les attaquants à s'entendre. Enfin, il y a comme un manque d'automatisme que je pense que c'est ça les problèmes actuellement de la France.
Vous êtes d'accord avec ça, David Aiello?
Oui. Après, je pense qu'il ne faut pas être trop dur. Après, pour revenir sur la question initiale, donc à savoir est-ce qu'ils sont toujours les grands favoris. C'est vrai que On les a peut-être présentés de manière un petit peu exagérée comme les archi-favoris. J'ai même mon voisin de gauche qui pensait que la France avait gagné l'euro avant même de le disputer, à savoir Gilles, pour ceux qui ne sont pas devant leur, devant leur écran.
Mais c'est de la radio.
Parce que c'est de la radio. Même, ça ne vous pas échapper que maintenant, il y a des petites caméras quand même.
Oui, mais enfin bon, les gens
voilà,
nous écoutent,
la précision est faite. Donc voilà, pour moi, on fait encore partie des favoris, mais c'est vrai que la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas sont venus frapper un petit peu à la porte juste derrière. Donc,
ça voilà. Fait beaucoup de monde. Hein.
Ouais, mais le statut est beaucoup moins évident qu'avant le début de l'euro.
Vous citiez les Belges, Stéphane Poels alors, vous, les Bleus.
Moi je pense que les Bleus sont toujours bien candidats comme les Allemands, comme deux, trois autres. Moi je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mais c'est toujours normal quand on est... On s'inquiète toujours plus pour sa nation que la nation des autres. Moi vous savez, vous avez un parcours, on ne peut pas oublier quand même que c'est le groupe de la mort. Quoi, et que vous avez fait un parcours avec un match difficile, je le conçois, contre les Hongrois. Mais les Hongrois, on met en difficulté aussi les autres équipes du groupe. Hein, on l'a vu, hein, c'est comme une équipe qui défendait solide. Moi j'ai quand même vu une équipe qui bat des Allemands qui me semble aussi candidat à la victoire finale. Et je vois une équipe qui à la fin... a quand même géré dans l'adversité. Tu prends un pénalty, ton gardien fait quand même une petite saucisse. Derrière, tu restes. Moi, je ne suis pas vraiment inquiet pour les Bleus. Et vous qui êtes Français, vous êtes quand même bien conscient que les Français montent en puissance généralement dans les compétitions. Donc moi, je pense vraiment que les Français vont taper fort. Avec, on en reparlera certainement, je pense qu'il y a des joueurs comme Kiki, votre Kiki qui a envie de prouver. Mm-hmm. Et je pense que quand les Suisses, ils vont taper fort. Je n'ai pas une boule de cristal, mais je pense qu'ils vont atomiser les Suisses. Ça va permettre de rentrer vraiment dans ce combat. Ces poules étaient quand même compliquées. Hein. Franchement, vous terminez premier du groupe. Moi, ça me fait rire quand on dit la France, ils sont passés à travers. Enfin, Gilles, vous êtes quand même toujours premier de ce groupe. Non, même si ça n'a pas été
Gilles facile. A annoncé que la coupe était déjà dans le coffre de la bagnole.
Je ne retire rien.
Mais vous avez bien raison.
Mais j'avoue que j'ai eu quelques jours de doute. Ah, et une introspection m'a permis d'effacer les doutes. On va gagner, ce sera moins flamboyant que ce que je pensais, plus difficile. Des 1-0, sans doute, contre la Suisse, puis après, mais on gagnera. On gagnera parce que personne ne peut nous battre. Ah. Ça, c'est une morale simple dans le foot. Quand vous êtes invincible.
Ça, c'est de la logique, Gilles, ou c'est du boulard.
C'est de l'analytique.
D'accord,
c'est
de la logique.
Et si on nous demande de l'analyse.
On a enregistré tout ça, évidemment.
Mais quand personne ne peut vous battre, vous allez au bout.
Oui, ça c'est la.
Eh ben voilà, c'est mathématique, vous êtes d'accord avec moi. Donc CQFD, personne ne peut nous battre.
Après le CQFD de personne ne peut nous battre, bon, c'est quand même pas écrit sur une compétition comme ça qui joue sur un match.
Si l'équipe s'est mise à jouer comme Griezmann, qui suit l'exemple de Griezmann, qui est vraiment partout, il fait les replis défensifs, il a fait 29,9 km. Mais s'il s'est mise à jouer collectif. Non, mais s'il s'est mise à jouer collectif, c'est-à-dire qu'il joue pas seulement leur rôle, et surtout là, ils en ont besoin parce que l'infirmerie, elle est pleine. Donc vraiment, je pense qu'il peuvent aller en finale.
Là, si vous permettez, Florian...
J'ai pas le choix, vous prenez...
sur cette histoire d'infirmerie aussi, il y a un moment, il faut arrêter aussi. T'as l'impression que toute l'équipe de France est
beaucoup, quand même.
Ah bah oui, quand même.
Mais tes leaders, sont là. Benzema est là, Kylian Mbappé est là.
Je peux te répondre précisément là-dessus. L'inquiétude, elle porte sur le fait qu'à gauche, t'as eu coup sur coup de joueurs qui ont été blessés. Et voilà, et t'as pas...
C'est pas la fin du monde, David.
C'est pas la fin du monde, mais voilà, t'en as deux, t'en avais pas trois.
On en reparlera tout à l'heure, puisqu'on a eu l'information aujourd'hui par Sébastien Tarago de l'équipe, qu'en plus Jules Koundé, qui a pris un coup à la fin du match contre le Portugal, blessure aux ischio, donc très incertain pour jouer le match contre la Suisse, donc ça fait un défenseur en moins sur le flanc. Presnel Kimpembe était en conférence de presse tout à l'heure, et il a déclaré ceci: vous préférez terminer premier avec quelques problèmes, ou deuxième ou troisième avec du beau jeu? Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Bravo Kimpembe, il a tout compris. Et nous, on sait comment gagner les compétitions. On laisse aux autres les débats éternels sur quel football, la notion de plaisir qui est très subjective, l'ennui qui est une notion pour les dépressifs. voilà, nous on gagne. Donc Kimpembe, il gagne. Et il explique qu'avec Deschamps, on gagne. Donc voilà, bravo, bravo.
Et bravo aussi parce que s'il joue un football simple, mais je ne vois pas une autre façon, parce que les équipes, les adversaires, on n'en parle pas, ils se débrouillent aussi difficilement. Et pourquoi on est si négatif par rapport à la France?
Les Hollandais, les Belges, les Italiens,
oui, mais nous,
fois,
on fait la face à qui? On fait la face à l'Espagne. Espagne peut-être, la Croatie peut-être, qui bon, ok, ils sont quand même Modric qui se débrouille pas mal, mais c'est pas si merveilleux que ça. Moi, je pense que si on est aussi négatif, c'est parce que face à l'Hongrie, on a eu du mal, mais c'est normal. L'Hongrie a vraiment été un peu la surprise, entre guillemets. C'est eux les dangers. Ils ont mis en difficulté tout le monde. Moi, je pense que face à l'Allemagne, on s'est bien débrouillé. Et l'Allemagne est une équipe qui monte en puissance. Donc, je pense que c'est des très bons augures.
Je vais vous étonner,
Stéphane Poels.
Un peu dans le sens de De Gilles, je pense qu'à un moment, il y a beaucoup de blabla. Ce sont des poules. Il faut passer ces poules. Et si vous analysez plusieurs pays, notamment ma Belgique, on n'est pas beaucoup mieux hein, quand on voit nos erreurs et nos errements défensifs.
Vous avez pris 9 points.
Oui,
pris
mais 5. Attendez, Florian, prendre 9 points, c'est bien. On a joué contre la Finlande. On a joué contre des Russes très faibles. Il faut toujours être mesuré. Tout à l'heure, vous parliez même en coulisses des Pays-Bas. On a vu des autres nations qui ont proposé des choses. Restons. Moi, je suis assez d'accord avec Gilles. Je pense que pour l'instant, pourquoi s'exciter ? Moi, je pense que ces Français ont la culture de la gagne.
Non, mais l'excitation, elle vient parce que effectivement, dans le jeu, c'est pas extraordinaire, c'est pas forcément très rassurant, mais après moi je comprends.
Comme d'habitude, j'ai envie de dire.
Oui, mais en plus, moi, justement sur le comme d'habitude, il faut rappeler que la France termine encore une fois première de sa poule, c'est devenu une habitude sous l'ère Didier Deschamps, c'est d'ailleurs à chaque fois comme ça depuis 2014, et ça c'est on est la seule équipe à le faire, et terminer première de sa poule, effectivement comme ça a été rappelé par Steph à l'instant, avec une poule de ce niveau-là, c'est pas anodin non plus, enfin, je veux dire, aller gagner en Allemagne, on l'a banalisé, mais on allait gagner en Allemagne,
tout à fait.
Revenez 20 ans en arrière, aller gagner en Allemagne, c'était même pas dans les rêves, donc il faut pas non plus, faut pas non plus tout enterré. Il y a des choses évidemment à revoir, en particulier dans l'animation offensive, dans la fluidité. Je
suis
d'accord.
On va parler de l'attaque tout à l'heure.
Mais je comprends Kimpembe sur le fait qu'il ne faut pas banaliser ce qu'ils ont fait.
Oui, Gilles.
C'est jamais ou quasiment jamais les équipes qui engrangent 9 points, qui brillent au premier tour, qui survolent les débats, qui vont au bout. Hein.
C'est vrai.
Il y a des pics de forme à travailler. Deschamps, pour le coup, on peut dire ce qu'on veut, mais il sait analyser ça. Il sait préparer son équipe pour les matchs à élimination directe, pour la fin. Quand vous brillez au début, vous atteignez votre pic de forme. En général, vous vous faites sortir assez rapidement. L'euphorie, elle retombe.
Bon, on l'a dit, on va parler justement de cette attaque. Dans un instant, on se penchera sur notre attaque. Benzema, Griezmann, Mbappé, Giroud, Coman. On allait voir ce qu'on allait voir avec la meilleure attaque du monde. Résultat, 4 buts, dont un but contre son camp. Notre attaque est-elle surcotée ou c'est Deschamps qui ne sait pas la faire jouer? On en parle dans un instant.
On refait le match sur RTL.
RTL, on refait le match.
Florian Gazon.
On refait le match sur RTL jusqu'à 20h, toujours avec Cindy Colmenares, David Aiello, Stéphane Powell, c'est Gilles Verdez. Un œil sur le premier huitième de finale qui est en train de se jouer entre le Danemark et le Pays de Galles. 60 minutes de jeu, les Danois mènent 2-0, doublé de Kasper Dolberg, le Niçois. Bon, les Danois qui sont en train d'aller doucement mais sûrement en quart de finale. Ouais. Ça va faire bien plaisir à Christian Eriksen qui doit regarder ça de chez lui. Allez, on va revenir sur notre équipe de France, nous bleus, avec cette donc supposée meilleure attaque du monde, hein, avec la KGB, hein, Kylian, Griezmann, Benzema. On nous a vendu la meilleure attaque. Résultat quand même.
Je vous sens aigri, Florian.
Non, je constate. 4 buts en 3 matchs pour les Bleus, dont un pénalty, un but contre son camp et un but chanceux sur une heure défensive. La France, 8e meilleure attaque des poules. Alors, je vous demande, elle est où la meilleure supposée attaque du monde ?
Elle est où ? Elle n'allait pas non plus. Mais ça, c'est une erreur aussi un petit peu de l'équipe de France elle-même. Quand on se souvient que Kingsley Coman est venu en conférence de presse se vanter justement qu'on avait la meilleure attaque du monde, il a oublié aussi qu'une meilleure attaque du monde, ça ne s'improvise pas comme ça et que les automatismes, même si on a du talent, ça ne s'improvise pas. Donc voilà, c'est une attaque qui n'a pas d'automatisme, c'est une évidence, on le voit, voilà, ils n'ont pas de repères et ça se travaille, donc ça ne va pas venir comme ça au bout de 2 matchs.
Enfin,
donc,
ça se travaille quand ? Parce que là, on est en pleine compète, hein, je vous rappelle.
Mais, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a beaucoup dit, ça aurait peut-être été pas mal que Karim Benzema revienne un petit peu plus tôt, peut-être au mois de mars déjà, il y aurait eu le temps de créer un petit peu plus d'automatisme. Là, de facto, il vient de revenir, il y a eu 2 matchs de préparation, ensuite on enchaîne, on attend des miracles de ces 3-là, mais ça ne se passe pas comme ça. Donc, sur le papier, oui, on a la meilleure attaque du monde, mais il va falloir que le lion se fasse. Quoi.
Après, c'est aussi qu'il y a des équipes, par exemple, comme les Pays-Bas, où tu as un Depay avec Wijnaldum, c'est sûr que du coup, pour classer les meilleures attaques...
Non, mais sur le papier, oui.
Ils sont pas mal aussi.
Non, mais là, la question
c'est des gens qui ont l'habitude de jouer ensemble.
Ouais, la question de Florian, je l'ai Gilles, la question de Florian, c'est de savoir, et puis je laisserai après
Gilles d'abord. Ben non, mais Gilles d'abord.
La question, c'est de savoir si c'est une bonne attaque ou pas. C'est ça la question.
Bah, c'est-à-dire, c'est une vraie question, ça ?
Ouais, Gilles.
Pour moi, le risque, c'est que ça devienne une attaque de stats. Voilà, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est que la somme des individualités et l'ego des individualités prennent éventuellement le pas sur l'intérêt collectif. Faut pas être dupe. Benzema, il revient. Il avait absolument besoin de marquer. C'est fait. Doublé. Mais Mbappé, il a besoin de marquer. Il a besoin de marquer parce que sinon, il sera peut-être pas Ballon d'Or. Et pour lui, c'est vital.
Ça, on va en parler de Kylian Mbappé, Gilles.
Mais ce que je veux dire, c'est que tous ces attaquants, ils ont un talent énorme, mais il ne faudrait pas qu'à un moment, Griezmann se sacrifie pour le bien collectif et que les autres pensent à leur feuille de stats. Voilà le risque pour moi.
Oui, justement,
je réponds la meilleure.
Pas tout le monde en même temps. La France, comme j'ai regardé, 3 matchs, 31 tirs, dont 10 cadrés. C'est le 13e total sur 24 équipes. Alors, ça ne veut pas tout dire, les stats, mais enfin, quand même, ça veut dire qu'on a des joueurs formidables, mais qu'il ne se passe pas grand-chose.
Non, mais vraiment, David. Quand tu vois la qualité de tes attaquants, et bien sûr, tu as des oppositions difficiles. Je suis désolé, mais vous savez comme moi, dans un match, ça peut basculer. On commence à charger. Moi, je ris quand je lis les commentaires sur Karim Benzema, quoi. Parce que pour moi, il fait pour l'instant un bon euro, quoi. C'est-à-dire que pour moi, il est présent dans les trois matchs. Effectivement, il rate un pénalty. Effectivement, il a une occasion en or au deuxième match qu'il doit la mettre. Mais sur l'ensemble de ce qu'il nous propose, c'est quand même, à mes yeux, extrêmement intéressant. Il fait jouer les autres. Et bien sûr que les Français jouent différemment avec la venue de Karim Benzema. Mais Kiki Mbappé, vous savez que j'en suis pas toujours grand fan. Mais qu'est-ce qu'on peut lui
reprocher? Ça l'attriste beaucoup, d'ailleurs.
Il pleure, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher? Mettre des buts, comme dit Gilles. Il doit mettre des buts. Il va en mettre contre la Suisse. On parle de Grisou. Vous avez vu quelle débauche d'énergie dans un collectif. Moi, je trouve qu'on est sévère avec cette attaque. Et au football, il n'y a pas que les attaquants qui marquent. Regardez les autres équipes. Il y a aussi des joueurs du milieu de terrain qui mettent des buts. Il y a aussi des défenseurs qui mettent des buts. Donc, arrêtez de charger votre attaque.
Non, parce que
vous chargez parce que, à la française, on avait annoncé comme Coman que vous avez une attaque exceptionnelle.
Oui,
effectivement,
on
attendait justement beaucoup plus. Vous savez, on paiera les musiciens à la fin du bal. Attendons.
Oui,
attendons.
On est d'accord là-dessus.
Oui, c'est pas parce qu'on paye les musiciens à la fin du bal qu'on peut pas parler de la symphonie. Et pour l'instant, elle est quand même inachevée.
Bah justement, tiens, c'est une belle image parce qu'effectivement.
Merci, David.
C'est très bien trouvé. On a effectivement ces artistes quelque part, mais pour l'instant, il n'y a pas cette symphonie. Et ça rejoint d'ailleurs ce que tu disais, Steph. Tu fais un bilan point par point. Kylian, il est pas mal. Karim, il est pas mal. Et Antoine est pas mal. Ok, très bien. Mais pour l'instant, on les a pas vus les trois ensemble. Et c'est ça la symphonie justement qu'on attend, pour laquelle
mais tu as répondu à sa question.
Est-ce qu'on a le bon chef d'orchestre pour ça?
Oui, mais il faut pas être
Didier Deschamps.
Il faut pas être non plus. Quand je parlais d'ego, excusez-moi, tout le monde sait que Griezmann et Mbappé ils ne s'entendent pas, tout le monde sait qu'ils sont pas les meilleurs potes, tout le monde sait que il y a pas une relation formidable, donc ça rejaillit sur le terrain. Faut pas
c'est
être
dans toutes
non
les
plus.
Équipes Gilles, dans toutes
oui,
les équipes des
bah oui, mais là on parle
pas
de la nôtre, donc du coup ça crée une complémentarité qui est moins évidente, et c'est à Deschamps, puisque vous abordez le sujet, c'est à Deschamps de trouver l'équilibre. Et c'est pas évident avec des égos comme cela. Ça, c'est pas évident, franchement.
Oui, c'est ce que je disais un peu au début, comparant à l'Italie, c'est que Mancini, souvent, il a fait confiance à ses idées, donc ça se peut mettre en place. Maintenant, les joueurs sont à l'aise. Deschamps, on lui a souvent critiqué le fait qu'à chaque fois, il était toujours sur les mêmes joueurs, les mêmes collectifs, exactement de la même façon. Là, il a un peu revu les choses, soit parce qu'il a eu envie de les faire, d'ajouter évidemment Benzema, mais aussi parce qu'il y a l'infirmerie qui est pleine. Donc, toutes ces choses-là font que maintenant, on a un collectif qui n'en est pas un, en fait. Et même si on a quand même, il faut quand même les rappeler que Mbappé avait été formidable en deuxième mi-temps face à l'Allemagne. Certes, le but, c'était un offside, mais il était quand même très, très bon. Donc, je pense que Mbappé va vraiment se libérer face à la Suisse et puis par la suite de la compétition. Et il va nous montrer, ils vont nous montrer que c'est vraiment la meilleure attaque. En tout cas, c'est les meilleurs joueurs au monde.
Je sais pas que c'est dans une émission de Medium, en tout cas.
Je vous signale que les Suisses, eux, ils vont jouer tous derrière pour encaisser
zéro
but.
Non, mais David, il y a
l'autre.
David,
attendez lundi.
Mais moi, je vous signale que la Nati s'est toujours arrêtée en huitième. Elle n'arrive pas à passer les huitièmes. Donc, les chances que.
Florian, David a dit quelque chose tout à l'heure qui est tellement cruel et on est tous conscients de ça. C'est l'arrivée de Karim Benzema si tard. Et tu ne peux pas demander même à un entraîneur de qualité comme Didier Deschamps de trouver un automatisme entre 3-4 attaquants en 2 semaines, ce que certains cherchent en 2 ans dans des clubs. Donc, effectivement, ce constat, il est là. Et je trouve que.
Quoi, il s'est mis dans la ratière tout seul, vous dire?
Bah, il s'est mis en difficulté en le ramenant aussi tard. Ça, je suis. Enfin, en tout cas,
mais il fallait faire un coup.
Mais il fallait faire un coup.
Benzema pour un match amical 2 mois avant, ça rime à rien.
Non, mais
Benzema,
mais vous je te parle pas de moi.
C'est l'électrochoc.
Gilles, on parle pas de moi.
Il pouvait le ramener pour le mois de mars, justement pour cette question d'automatisme. Après, là où je te
rejoins, c'est fait.
Par contre, Gilles, c'est sur la question des égos. C'est vraiment une question qui n'est pas évidente à gérer pour Didier Deschamps. Parce que, Cindy, tu fais la comparaison avec l'Italie, mais sur ce point-là, c'est extrêmement différent. On a 3 méga stars mondiales en équipe de France. Et effectivement, ce point-là, c'est un point délicat, je dirais, pour
le premier
champ. Il sait faire, mais ça prend du temps.
C'est tout à fait ça. C'est en fait la chance qu'il y a l'Italie, c'est que l'Italie n'a pas des stars, ils sont tous excellents. Si je vous demande, citez-moi.
Non, ça peut aller vite à vous la mise.
C'est un collectif, ils sont vaillants. Tandis que la France, c'est vrai qu'on a pas mal des stars. C'est un peu, c'est vrai, on va pas aller sur les faits d'avoir les meilleurs joueurs au monde.
On est quand même champion du monde.
Mais c'est difficile.
Alors que l'Italie n'y a pas.
Mais je suis certaine, je vous l'ai dit ici, pour finir en tout cas mon intervention, c'est que Deschamps va mener la France à nouveau en finale.
Bon, après Madame Soleil, je voudrais intervenir après Madame Soleil.
Mais c'est pas Madame Soleil, c'est juste analyser les matchs, les regarder.
Juste deux choses quand même. Ben Yedder n'a pas joué une minute. Hein? Giroud, 14 minutes. Coman, 24. Bon, il est devenu papa. C'est pas de sa faute. Enfin, si, un peu. Dembélé out. Est-ce que Deschamps doit s'entêter avec ses trois devants ou est-ce qu'il faut un petit peu changer des choses?
Flo, c'est une bonne question d'ailleurs. Quand on me dit.
Merci Stéphane.
Mais non, mais faut sortir un tel. Et on est en train de nous dire depuis un quart d'heure, il faut trouver des automatismes. Si à un moment tu veux chercher des automatismes, tu peux pas sortir un des trois parce que tout d'un coup il passe un petit peu à travers de son match. Je fonctionne comme
on
ça.
On va demander à Gilles.
Non, mais
vous pouvez n'en changer aucun. Vous êtes entre guillemets prisonnier de votre trio extraordinaire. Ouais, mais... Vous en sortez un, c'est le drame national. Ouais. Vous sortez Mbappé, c'est impossible. Vous sortez Benzema, mais pourquoi l'a-t-on pris? Vous sortez Griezmann, c'est celui qui bosse défensivement.
Non, mais Deschamps, je les coupe pas.
Avec les trois, éternellement.
Ça veut dire qu'on va faire toute la compète avec trois joueurs avec des températures très chaudes.
Mais vous pouvez pas que Man rentrera un peu. Et là, s'il n'y a pas
Mbappé, c'est impossible.
Giroud, quand il est rentré, il avait l'air de s'ennuyer, se demandait ce qu'il faisait là. Donc non, très franchement, on continue avec les trois.
Il a raison, Gilles. Je pense qu'il faut garder ça. Ah, maintenant, Florian, si tout d'un coup tu passes vraiment à côté de la Suisse et que les trois jouent comme...
Je sais pas de quoi on parle la semaine prochaine.
T'as bien compris, je veux te dire, tu te qualifies, t'es vraiment très mauvais, tes trois attaquants sont mauvais. À ce moment-là, tu peux réfléchir. Mais là, laissons ces trois-là. Moi, je pense que ça va fonctionner. Effectivement, le côté Boulard, David, tout le monde sait que.
Moi, je dis Boulard.
Moi, je pense que Kylian Mbappé, il a beaucoup de mal. Il y a peu de sourire en ce moment. On n'en voit pas grand-chose. Moi, ce que je vois, c'est que Benzema, avec le maillot de l'équipe de France, pour l'instant, il se comporte avec du sourire. Il met des buts et il a envie de bien faire. Et moi, ça me rend content de voir ce genre d'attitude. Donc, restons positifs, quoi. Enfin, je pense que pour l'instant, ça fonctionne bien. Bon. Et je le répète, dans un groupe compliqué.
Très bien. Après une courte pause, on fera un petit focus sur Kylian Mbappé. Donc, zéro but en trois matchs. Est-ce que c'est grave, docteur? Chers amis, vous avez quelques secondes pour faire votre diagnostic. On se retrouve après la pub. Vous êtes bien sur RTL. Alors, restez-y. À tout de suite pour On refait le match.
RTL.
On refait le match. On refait le match sur RTL.
Avec Florian Gazan.
On refait le match sur RTL jusqu'à 20h, toujours avec Cindy Colmenares, David Aiello, Stéphane Powell, Gilles Vernez et Baptiste Durieux, les réseaux sociaux, émission interactive, RTL Foot, le compte Twitter, la page Facebook. Bonsoir Baptiste, quelques petites réactions à notre débat sur les Bleus?
Absolument, bonsoir Florian, bonsoir à tous. Déjà sur le bilan de l'équipe de France, Thierry nous explique que c'est ni rassurant ni inquiétant, mais que la France, je le cite, est surexpérimentée avec un coach surexpérimenté, premier de la poule de la mort avec des prestations mitigées, c'est ça la France finalement. Il rajoute, c'est surtout une question de physique et je sais que le visage de cette France changera sur les matchs à élimination directe. Beaucoup de messages également sur la phrase de Presnel qui PMB. Morgan nous dit Presnel a raison, il sait, on sait, la France gagne des titres mais ne gagne pas les cœurs avec son jeu et c'est comme ça, on est la plus belle équipe d'attaque rapide du monde, c'est tout, il faut l'accepter et entériner cet idéal du beau jeu. Et puis justement sur cette meilleure attaque du monde et cette question que tu as posée Florian, message de Yohan, la meilleure attaque du monde pour l'instant elle est bien là, même si notre deuxième meilleur buteur s'appelle Mats Hummels. Les trois sont à l'échauffement mais colleront des triplé à partir des quarts de finale. J'ai une confiance aveugle en Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et évidemment Karim Benzema.
Merci Baptiste. À partir des quarts de finale, si on gagne le 8e quand même, je vous rappelle, il y en a un quand même à jouer. C'est pas parce qu'on est champion du monde qu'on saute des cases. Merci Baptiste, on se retrouve plus tard. Et on va donc continuer à parler de notre attaque. On va quand même parler de Kylian Mbappé, notre petit génie. Zéro but en trois matchs. Qu'est-ce qui se passe avec Kylian Mbappé et est-ce que ça peut devenir quand même à terme un problème pour les Bleus, cette inefficacité et la frustration forcément qui va en découler.
Non mais qu'est-ce qui se passe hein? Vous entendez Florian, j'ai l'impression qu'il est passé à côté de son euro, etc. Alors certes, il n'a pas marqué, c'est ce qu'on attend de lui, mais comme si on regarde le contenu, si on s'attarde au contenu de ses matchs, c'est loin d'être catastrophique. Contre l'Allemagne, il est quand même largement présent, il y a un pénalty qui n'est pas sifflé sur lui, il y a un but hors-jeu qui lui est refusé. Contre la Hongrie, c'est lui qui centre et il dynamite la défense hongroise, c'est lui qui centre pour Griezmann.
Le caviar qui donne à l'aile de pigeon. Ouais. Que Benzema rate, c'est le but de l'année si c'est but.
On a ça également, et contre le Portugal également. Enfin, il est présent, donc évidemment qu'il est, comme tu le disais, Gilles, on sent bien qu'il est en quête de but. Il a le ballon d'or en tête et il sait très bien que ça passe par un certain nombre de buts et des prestations concluantes en termes de stats à l'Euro. Il y est pas dans ce domaine-là, mais dans le jeu, on peut pas dire qu'il passe à côté de son euro. Donc j'ai envie de dire prudence, allons-y doucement. Il est extrêmement attendu également.
C'est pas ce que je dis. Je dis justement
que est-ce que c'est grave, etc.
Non, parce que justement dans cette quête de stade, d'être le, de battre tous les records, sans doute battre le record de Platini, enfin maintenant de Ronaldo, meilleur buteur de l'euro, devenir Ballon d'Or, etc. Forcément, bah lui, il les voit ces lignes de stats et pour l'instant il y a que des zéros. Donc est-ce qu'il y a un moment donné, il va pas commencer à jouer un peu plus pour ça et un peu moins pour l'équipe?
C'est sûr qu'il va falloir qu'il marque vite contre la Suisse, sinon là ça va devenir effectivement une interrogation. On voit que son visage est assez fermé, on voit qu'il est préoccupé, on voit qu'il a du mal, frustré, on voit qu'il a du mal à savoir s'il doit chercher des espaces, miser à fond sur sa vitesse, participer au jeu. Il y a chez lui, je pense, une interrogation autour de lui-même. Il est hyper exigeant et là je pense que lui somatise parce que le degré d'exigence qu'il s'impose, eh bien il ne le concrétise pas sur le terrain.
Ah, mais c'est
et un Mbappé qui ne marque pas, c'est un Mbappé qui doute et qui peut faire douter l'équipe.
Mais je pense que c'est là le problème. Je pense que et je suis sévère, hein. Si on a bien un des trois qui, à un moment, si ça ne va pas, tu vas devoir sortir, c'est lui. Griezmann, il fera son boulot. Oula. Il est indispensable. Benzema,
je pense qu'il peut traduire. Hein.
Non, non, mais je vais y aller. Je vais y aller.
C'est qu'à un moment, ils ont eu des problèmes,
je pense qu'il est jeune et qu'il se met, je rejoins Gilles, il se fout une pression pas possible. Et donc, à un moment, plus tu te fous une pression, plus quand t'es jeune, ça peut devenir compliqué, quelles que soient d'ailleurs les disciplines sportives et quelle que soit la vie d'ailleurs.
Il a l'habitude de ça. Hein.
Non, non, j'ai l'impression ici que il va falloir qu'il marque, il a toujours pas marqué. Et je pense que si tout d'un coup il marque pas contre la Suisse, moi ce qui me dérange, et Gilles le dit avec d'autres mots que moi, mais je trouve qu'il boude. Et je trouve qu'il boude pas sur les autres, il boude sur lui parce que ça marche pas. Et ça, ça peut se ressentir sur un groupe. Et donc à un moment, Deschamps, puisque c'est lui que vous citez tout à l'heure, Florian Gazan, en demandant s'il est pas aussi un peu responsable.
C'est le sélectionneur.
Et je pense que le sélectionneur, à un moment, si ça ne va pas avec Mbappé, il va devoir à la mi-temps.
Il le fera jamais. Il le fera jamais.
Ah, bien alors, c'est une erreur.
Mais non,
alors,
vous allez prendre le mur. Il n'y a pas un entraîneur au monde qui
peut sortir qu'il y a Mbappé.
Bah oui.
Mais qu'est-ce que c'est cette histoire?
Stéphane, est-ce que vous avez vu un entraîneur qui, dans l'âge d'or de Cristiano Ronaldo, a sorti, qui a sorti Lionel Messi,
non,
etc.
Il peut
ça
pas, n'existe il pas.
Ah, mais attends, vous parlez de Messi, de Ronaldo et de Mbappé.
Désolé.
Non, mais attendez, on va parler de la même chose. La gamme de 22 ans.
Non, mais attendez,
pourquoi ils ne pas tous en même temps? Pas tous en même temps.
Non, mais ça m'insurge. Ça me fout dans une colère. Comment voulez-vous, David Allo, me dire qu'on peut pas sortir qu'il y a un Mbappé?
Parce que c'est l'icône.
Mais enfin, un icône à 21 ans. Mais c'est vrai. Vous êtes fou, quoi.
Ne vous énervez pas.
Mais non, mais s'il est pas bon, on peut le sortir.
Non.
Ah non, prenez le mur alors. Prenez le mur.
Parce qu'on le marque à tout moment.
Exactement.
Alors,
on va un petit peu calmer le jeu. Il y a beaucoup de testostérone sur Mbappé. On va demander à Cindy ce qu'elle en pense.
Alors non, par rapport à Mbappé, déjà, juste pour revenir par rapport à cette histoire des attaquants, moi je pense que c'est un peu comme les gardiens de but, désolé, c'est un poste qui n'a rien à voir, mais il faut vraiment qu'ils soient en confiance, donc je ne vois pas du tout Deschamps changer un joueur, ne serait-ce que pour la confiance. Et concernant vraiment Mbappé, moi je pense que c'est un joueur, ces débats on l'a fait, souvenez-vous tous, parce qu'on a été souvent autour du plateau les mêmes, plein de fois, avec toujours la même question, Mbappé, ça va pas, il marque, est-ce qu'il va marquer, etc. Et à chaque fois, hop, il nous éblouit à nouveau, il marque, et puis on revient au même.
Là, c'est ça toujours fait pareil. Trois matchs. Hein.
Puis j'ai l'impression qu'on se retrouve un peu comme, vous souvenez la Coupe du Monde, de quel joueur on parlait comme ça, c'était Giroud à chaque fois, il marque pas, etc., etc.
Bah, il a pas marqué.
À la fin, il n'a pas marqué. À la fin, il n'a pas marqué, mais il a toujours été outil, en fait, pour les collectifs.
Si
et moi, je trouve Mbappé outil pour les collectifs.
Cindy,
vraiment.
Si vous annoncez à Mbappé que ce sera le Giroud, qu'on va gagner l'Euro. Ça qui marque un but, je pense pas qu'il
va être aussi utile que Giroud.
Ça serait une bonne question, ça, à lui poser. Ouais.
il faut pas mésestimer quelque chose pour répondre aussi à Stéphane et à Cindy. Mbappé, il est obsédé par la trace qu'il va laisser dans l'histoire du football.
Mais oui, c'est ça.
Il est champion du monde, donc la trace, elle est laissée. Il gagnera la Ligue des Champions, au PSG ou ailleurs, d'accord. Mais le Ballon d'Or, c'est l'obsession des meilleurs joueurs. C'est le cénacle absolu. Pour égaler Platini, pour égaler Ronaldo, Messi, il faut être Ballon d'Or. S'il n'est pas Ballon
même
d'Or...
Même égaler Jean-Pierre Papin.
Il n'est pas champion de France.
S'il n'est pas Ballon d'Or cette année, et on dit que ça pourrait être un de ses coéquipiers.
Kanté.
Vous imaginez, si Kanté est Ballon d'Or, Mbappé, mais il va se dire
alors,
la chance est passée.
Mais non, mais attendez, il est jeune, Mbappé.
Mais non, il a 23 ans.
C'est une ligne dans le palmarès qui pour lui est fondamental.
Mais il joue pour Gilles.
Sérieusement, le problème c'est qu'il ne veut pas gagner un Ballon d'Or, c'est qu'il veut en gagner 5 ou 6. Oui.
Soyez sérieux, cette saison il ne gagne pas le championnat de France.
S'il gagne l'Euro, c'est pas grave,
s'il gagne l'Euro. Non, mais même s'il gagne l'Euro, je pense qu'il y a quand même d'autres candidats.
Kevin De Bruyne, il a marqué des esprits contre le Barça.
Kanté, De Bruyne, mais il n'a pas gagné la Champions League. Il a Kanté, il a gagné.
Si la France France gagne l'Euro, c'est quand
vous pensez vraiment que Mbappé,
normalement, c'est comme ça que ça se passe.
Bah oui, parce qu'il a gagné du coup la Champions League, l'Euro.
Ce qui se passe, c'est comment ça se passe.
Il n'est pas champion de France, mais
c'est
pas
le championnat de France.
C'est pas un Lillois qui va être Ballon d'Or.
C'est pas un critère pour le Ballon d'Or, le championnat de France. Le critère, c'est la Ligue des Champions et c'est le.
Le but, c'est que je pense que Kanté a gagné la Champions League. Il a quand même été, à mon avis, moins supérieur à Mbappé. Moi, je pense qu'Mbappé se met une grosse pression pour que l'année prochaine,
Mbappé, meilleur buteur de l'Euro, ce sera lui. C'est pour ça aussi qu'il veut marquer.
Il ne sera pas. Ronaldo a 5 buts.
Est-ce que, je vais poser une petite question. Est-ce que finalement, quelque part, l'arrivée de Benzema, c'est pas un souci pour Mbappé qui se rêvait neuf de l'équipe de France? Parce que finalement, c'est Benzema qui est au milieu. Il est un peu sur le côté Mbappé. Est-ce que quelque part, ça l'handicape pas?
Non, je pense pas, parce que je pense pas qu'il ait cette.
Je picote. Hein, là.
Oui, je sais bien, mais je pense pas qu'il ait cette idée d'être aujourd'hui, en tout cas, un neuf. Il sait que. Il est a priori plus performant en partant du côté, en rentrant dans l'axe, comme d'ailleurs dans la position qu'il occupe actuellement, en particulier côté gauche. Mais à chaque fois qu'il a été utilisé pleinement dans l'axe, finalement les seules fois où il a réussi, c'est quand avec Paris, quand ils ont joué vraiment le contre. Et vraiment, et là pour le coup, on a joué avec des équipes qui jouent bas. Donc je ne pense pas qu'il ait cette idée de se dire j'ai besoin de jouer dans l'axe.
Bon, ce ne sera pas le cas en tout cas contre la Suisse. Ça m'étonnerait qu'on joue le contre contre la Suisse. Justement, on va en parler de ce match. On va basculer vers ce France-Suisse. Ce sera lundi à 21h à Bucarest en Roumanie. Est-ce une formalité pour les Bleus ou un match piège? On se posera la question. On revient tout de suite pour On refait le match.
RTL. On refait le match.
Florian Gazan sur RTL.
On refait le match.
On refait le match jusqu'à 20h sur RTL, toujours avec Cindy Colmenares, David Aiello, Stéphane Powels et Gilles Verdez. Et on va donc basculer vers ce huitième de finale des Français. Ce sera lundi soir, face à la Suisse, 21h, Bucarest, en Roumanie. Alors, petit point, Louis Baudin, j'ai regardé, temps orageux annoncé, 29 degrés, un vent à 8 km/h et nous fêterons les Irénées.
Moi, j'aurais
dû faire
l'horoscope aussi.
C'était la météo.
Ah,
alors, les Suisses, donc, qui ont fini troisième de leur groupe derrière l'Italie, qui les a battus, et le Pays de Galles, contre qui ils ont fait match nul. Et ils ont battu les Turcs comme tout le monde. Alors, ce France-Suisse, match piège ou on est déjà en quart de finale?
Non, on n'est pas en quart. Non, on n'est pas en quart. Une équipe où il y a Shaqiri, on n'est pas en quart. C'est une équipe qui sait jouer, qui va mener quelques incursions dans notre camp très rare, qui va longtemps miser sur le 0-0. Moi, je ne vois pas un festival français. Hein. Pour moi, c'est un vrai huitième de finale. Oui, ce sont des petits troisièmes et encore limite. Mais voilà, ce n'est pas une équipe ridicule. Elle est bien organisée, disciplinée. C'est une génération qui a envie d'aller loin. Non, je pense pas que ce soit une formalité.
Là, tu vas te balader. Hein. Ça, c'est un match hyper facile. Cette Nati, défensivement, elle n'est vraiment pas exceptionnelle. Alors, elle défend peut-être en bloc comme ont fait les Hongrois et compagnie, mais elle est tout à fait friable. Alors, bien sûr, il y a un très bon joueur, Shaqiri, mais j'estime quand même.
Il y a un très bon gardien également.
Ouais, mais il a quand même été très moyen, je trouve, Shaqiri sur le premier match, très meilleur sur le troisième. Donc, je pense que cette équipe, si les Français jouent leur jeu, et notamment, on peut revenir sur Mbappé sur les flancs, et si ça va vite, je pense que leurs latéraux vont se faire bouffer. Alors, c'est une bonne équipe, la Suisse, mais il faut arrêter. Alors là, parfois, vous êtes autant dithyrambique, autant vous faites preuve d'humilité en disant ça va être compliqué contre les Suisses. Si vous explosez pas les pliques, alors vous vous parlez.
On sait quand même que l'équipe de France, en gros, elle est forte contre les forts, elle est faible contre les faibles.
Mais là,
on est quand même sur un faible. Enfin,
mais en qualification,
tout le respect pour nos amis suisses. Je n'ai pas de compte là-bas.
On a du mal hein, aussi.
Oui, t'es pas dans le calcul, là, t'es pas dans des groupes, là. Tu dois te qualifier, donc.
Non, mais après, je pense qu'il faut toujours respecter les équipes parce que regardez l'Anglais, ce qui s'est passé. Et puis j'ai l'impression que les jeux de la Suisse est souvent un peu comme ça. Mais d'une, évidemment, il y a Big Shaq et des deux, souvenez-vous. Combien de buts ils sont encaissés là depuis la phase des groupes? Juste deux, il me semble. Donc, c'est pas forcément une équipe qui va être facile à jouer, mais les Bleus sont en quart. Ça, c'est
les Suisses ont encaissé 5 buts.
Ouais,
ils ont joué contre des équipes relativement faibles.
La réalité, c'est que c'est une équipe qui n'est pas à prendre à la légère. Ils sont 13e au classement FIFA. Ça dit quand même quelque chose sur la durée. Il y a un certain nombre de joueurs qui jouent en Bundesliga. Enfin, voilà, c'est pas une équipe de peintres. Donc, Steph, quand tu dis.
J'ai pas dit que c'est l'équipe de page. Quand tu t'appelles la France, tu peux pas venir dire ça va être compliqué contre les Suisses.
Mais
ça mourrait
de
rire.
C'est un huitième. Mais c'est pas que ça va être compliqué. C'est que tu peux pas te permettre d'arriver comme tu nous présentes ça, comme ça va être une
si
formalité.
C'est pas une formalité. Si tu es sérieux. Si les Bleus jouent sérieusement, tu vas gagner.
Il faudra être sérieux. Comme m'a dit Florian à l'instant, ça va être une équipe qui va être regroupée contre laquelle on a du mal. Enfin, et d'ailleurs, on le voit bien sur cet Euro. À chaque fois qu'il y a des équipes comme ça qui sont très regroupées, il faut réussir à marquer le premier but rapidement. Sinon, c'est extrêmement compliqué. Il y a pas de solution.
du peureux, les Français.
Mais
en fait.
Non, on n'est pas peureux. C'est la réalité. Quand tu regardes les matchs, les équipes bien regroupées,
elles sont difficiles. À vous changer, vous n'êtes
pas difficile à. Vous avez difficile à.
Mais Gilles Verdez, vous n'avez pas besoin. Au début de la compétition, vous dites que les Bleus allaient gagner facilement 7 euros. Vous n'êtes pas méprisant.
C'est l'information. C'est pas du mépris. Ah, d'accord. Mais on n'est pas arrogant.
Parce que Gilles a des spoilers. Donc il nous offre
en
exclusivité
sur
la
terre. On respecte les Suisses.
Mais Gilles, vous parliez, par exemple, de la Suisse. Vous disiez, oui, ils sont encaissés 5, mais c'était aussi les 3, c'était contre l'Italie. C'est une équipe où vraiment, ils sont très en forme. Donc je pense que, sincèrement, ça ne va pas être si évident que ça, mais je ne vois pas des difficultés majeures pour les Bleus.
Bon, alors quand même, sur les 5 derniers matchs contre les Suisses, mine de rien, il y a 4 matchs nuls. Un seul succès des Bleus, c'était à la Coupe du Monde en 2014, en phase de groupe 5-2. Et on les avait joués aussi à l'Euro 2016. On les joue tout le temps, les Suisses. Hein, pas de bol.
Mais pas au match comme 0-0. Ça.
Mais vous êtes voisins, hein, vous aimez bien.
Mais donc, c'est une défense. Alors, on nous annonce du côté helvète une prise à 2 sur Mbappé et sans doute Blokba et une défense à 3. Donc, ouais, ça joue comme ça, une galère.
Ouais, ça va être galère. Pour Mbappé, effectivement, cette histoire de prise à deux, moi, je suis un petit peu inquiet parce que on l'a souvent vu en difficulté avec le Paris Saint-Germain quand il s'est retrouvé comme ça. Mais il y a même des équipes qui se sont organisées pour défendre à trois sur lui. C'était le cas notamment de Monaco cette saison en Ligue 1 au Parc des Princes.
Ça avait bien marché d'ailleurs.
Et ça avait très très bien marché. Il avait été absolument calamiteux sur ce match. Et en plus, je trouve qu'il a parfois cette tendance un petit peu à vouloir à insister. Voilà, comme on disait, quand il est fermé, quand il a l'objectif de briller, c'est pas le genre de mec qui va se dire tiens, il est un petit peu comme Neymar pour ça. Tiens, je vais jouer simple, je vais simplifier mon jeu. Donc il y a un petit peu une inquiétude effectivement sur, en tout cas sur cette capacité à, sur la capacité des Suisses à les faire déjouer quoi.
Ouais Gilles. Bon,
moi j'ai une interrogation aussi très franchement.
Allez-y,
notre physique. Je ne trouve pas vraiment conquérant physiquement. Je trouve qu'on est mis en difficulté. Je trouve qu'on manque d'impact, de percussion.
C'est dur de dire ça, Gilles. Si tu regardes contre le Portugal,
on a des blessés, on a des joueurs
diminués. Oui, ça c'est vrai.
Non, mais alors,
qu'est-ce que tu entends par physique ? Ça dépend ce que tu entends par physique. Si tu entends par physique, effectivement, les blessures, tu as raison, de facto, on a beaucoup de blessés. Sur l'impact physique, on a eu du mal à rentrer dans les matchs. Mais si tu regardes contre le Portugal, par exemple, on termine beaucoup mieux qu'eux. Ils étaient complètement à la ramasse. Et nous, on a terminé mieux.
Moi, j'ai envie de parler quand même de la forme physique des Bleus, parce que j'aimerais les donner vraiment un gros carton rouge. Et désolé, mais au staff médical des Bleus, parce que c'est quand même assez surprenant d'avoir autant. Alors, soit il y a un vrai problème en France avec la gauche, et je ne parle pas des élections de demain, soit je ne sais pas ce qui se passe.
Excusez-moi,
je pense que votre temps de parole est
compté. Les gauchers, ils sont tous blessés.
Vous parlez du poste donc latéral gauche. Avec
des latérales gauche, avec. Regardez, moi, si j'étais Rabiot, je m'inquiéterais, parce que tous les gauchers, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ils sont tous à l'infirmerie. Moi, je pense qu'ils ont été un peu trop fort au niveau des entraînements.
Attends, on va donner la parole à Stéphane qui me fait l'éolienne, donc on va pouvoir alimenter tout le studio avec ses bras.
Non, mais je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas remettre en cause.
Bah, c'est une question qui se pose. Je vais vous répondre. Non, mais Stéphane,
laissez-moi répondre.
Je vous laisse répondre. J'ai quand même la France, 5 joueurs ont joué tous les 3 matchs. Varane, Kimpembe, Kanté, Mbembe et Lloris. Les Hollandais seulement 2, les Belges seulement 1, c'est Courtois encore. Et les Italiens, aucun joueur n'a joué les 3 matchs. Il y a quand même une dimension physique à prendre en compte.
Alors, à la même poule. Mais bien sûr qu'il faut la prendre en compte. Mais vous avez des matchs importants et c'était pas sûr de se qualifier. Donc il a fallu mettre les costauds lors des matchs, et notamment le premier match contre les Allemands. Nous sommes bien d'accord. Moi, ce que je veux pas, je peux pas entendre Cindy. Je le dis très gentiment. J'ai travaillé.
Bah, mettez-vous des boules de caisse, alors.
Mais non, mais j'ai travaillé dans des vestiaires. J'ai travaillé dans des vestiaires et excusez-moi, je pense qu'il faut respecter le staff médical. Il y a quand même des blessures qui se sont faites sur. Ben oui, Cindy, sur des duels à l'entraînement. Si le staff médical doit être remis en question sur un coup que l'on prend à l'entraînement. Entraînement, non. Moi, je pense que cette équipe, elle a eu de l'engagement. Alors, bien sûr, la question est que Didier Deschamps doit faire tourner. Bah, là, il n'y a pas le choix. De toute façon, il y a des blessures. Donc, l'Anglais va jouer. On n'a pas le choix. Mais venir dire que le staff médical ne fait pas son boulot,
non,
moi, franchement, ça m'insurge.
Attention. Je vais s'en dépréciser parce que
Cindy,
là, on défend mes mots. C'est pas ce que j'ai dit.
Cindy, s'il vous plaît. Petite parenthèse, comme 3e but des Danois, on suit le match comme le premier 8e de finale, c'est important. Pays de Galles, Danemark, 3-0 pour les Danois. Définitivement en route pour les quarts de finale. Et si les Danois nous refaisaient le coup de 92, la Danish Dynamite, souvenez-vous. En tout cas, c'est bien parti. Et victoire probante face au Pays de Galles. Donc, Gareth Bale a joué peut-être le dernier match de sa carrière avant de reprendre le golf. Enfin, il l'avait jamais
ça
vraiment totalement arrêté.
Ce qui leur est arrivé.
Cindy, oui, je vous ai coupé, pardon.
Oui, en fait, ce que moi je pense, c'est les staffs médicaux. On ne dit pas qu'ils soient mauvais. Non, non, loin de là, on respecte leur boulot. C'est quand même les staffs de l'équipe de France. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que pour moi, ils ont été trop durs. Et ce n'est pas, je ne le dis pas par rapport aux blessures que les joueurs subissent, mais il faut vraiment que les staffs ménagent un peu plus les joueurs parce qu'ils s'enchaînent. Ils ont eu que 4 semaines pour se reposer. Enfin, il faut un peu ménager les choses.
Oui, enfin, ce n'est pas le staff médical. médical qui décide qui joue, c'est Didier Deschamps quand même.
Non, mais ménager, oui, mais... pas dans les sens d'aller mettre sur les bancs, mais lors des entraînements, pas les pousser non plus au maximum.
Oui, mais il y a des choix tactiques et là, il y a des choix imposés par l'état de forme. Je veux dire, la titularisation probable, possible de l'Anglais contre la Suisse, c'est dicté par les événements contraires. C'est pas un premier choix, même en 3-4-3 avec une défense à 3, de mettre l'Anglais titulaire des Bleus.
Justement,
donc on a des blessés, Florian.
Bah oui, ça on en a. Alors justement, vous me tendez une perche, je la saisis, mon cher Gilles. Bertrand Latour et Sébastien Tarago de l'équipe donc nous annoncent qu'il y a une mise en place aujourd'hui en 3-4-3, donc encore un nouveau schéma tactique. Pour le coup, alors Didier Deschamps, on le disait qu'il bougeait jamais. 4 matchs, 4 ambiances différentes. Alors... on est au Métropolis. Hein. Donc on aura un 3-4-3 avec...
Ça fait longtemps que vous n'y êtes pas allé quand même.
Bah, oui, c'est fermé. Ouais. Lloris dans les buts. L'Anglais, Varane, Kimpembe derrière. Et sur les côtés, donc en piston, on aura Pavard et Rabiot. Pogba, Kanté, Griezmann, Mbappé et Benzema. Donc un nouveau schéma tactique. C'est pas non plus extrêmement rassurant.
Mais vous êtes drôle.
Bah, pas du tout. Mais
on a des blessés, on a plus de latéraux.
Oui, mais après, ce qu'il y a de... enfin, c'est quand même assez particulier. Parce que, bon, d'une part, ce schéma, il a été testé à l'entraînement. Ça n'est pas dit non plus que Didier Deschamps parte là-dessus. Mais si c'est le cas, moi, ça m'étonne parce que jouer à 3 derrière, finalement, sur les dernières années, il l'a fait que 3 fois. Et en plus, la dernière fois, c'était il y a un an. Donc, on peut pas dire que les joueurs aient énormément de repères. Et en plus, là, ils ont fait sauter une séance d'entraînement samedi, suite justement à l'accumulation de blessures à l'entraînement. Il a voulu prendre aucun risque. Donc, il y a quand même pas beaucoup de marge de manœuvre pour retrouver rapidement des repères. On vient de dire que l'équipe de France, notamment devant et dans l'animation offensive, avait pas beaucoup de repères. Alors là, on casse tout. C'est-à-dire qu'on était sur du 4-3-3 puis du 4-2-3-1, et là, on passe sur du 3-4-3. Alors là, je demande à voir. Et ça m'étonne de Didier Deschamps. Mais
si
on verra.
Si vous jouez à 4 derrière, il y a plus de latéral gauche. Comment vous faites?
Là, il y a les goals.
Il
peut pas faire tout un match. Il est à la rue. Comment vous faites?
Moi, je préfère mettre Rabiot à gauche, arrière gauche, et donc fragiliser entre guillemets juste un joueur que remettre en cause tout le système.
Alors moi,
Kimpembe aussi peut jouer à gauche.
Rabiot, c'est pas son poste. Et excusez-moi, je prends pas le risque. Je reviens sur Gilles. Je pense que c'est compliqué. Et je vais pas répéter son analyse. Maintenant, ça me fait rire tout le temps. Didier Deschamps aussi. Et Florian, je c'est il change ses systèmes alors qu'il fallait, enfin il a toujours été dans le même principe.
Non, j'ai pas dit nanana déjà.
Non mais par contre, ce qui est certain c'est que vous allez pas critiquer un entraîneur qui maintenant dans une situation compliquée doit bien trouver une situation et il s'adapte, c'est ça un tacticien. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? Il a des blessés sur ses postes de latéraux, ou bien il met Rabiot ou pas. Il a décidé de pas le mettre.
On va en reparler. Allez, dans la dernière partie de On refait le match, on va parler de ce match contre la Suisse, comment s'y prendre. Et puis si on a quelques secondes, j'aimerais quand même qu'on parle de la suppression du but à l'extérieur qui compte double. En 65, il est arrivé, il va repartir. C'est dommage. A tout de suite pour On refait le match.
On l'aimait bien.
On refait le match sur RTL.
RTL, on refait le match.
Florian Gazan.
On refait le match jusqu'à 20h sur RTL, toujours avec David Aiello, Stéphane Powell, Gilles Verdez et Cindy Colmenares, que j'ai pas encore entendu sur France-Suisse et cette hécatombe, parce qu'on a ouvert un hôpital de campagne.
Oui, alors là, comme vous annonciez les 3-4-3, on sait pas, c'est possible.
Ça a été travaillé aujourd'hui, l'entraînement par Didier Deschamps. 3-4-3.
Mais ça peut être 3-4-3, pardon. Ça peut être quand même assez intéressant parce que c'est un système offensif face à une équipe de Suisse qui va être, à mon avis, très défensive. Après, il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est que dès les débuts, on parle du fait qu'il faut vraiment qu'il joue qui a des difficultés entre eux, qu'il faut qu'ils trouvent des automatismes. Et là, c'est vrai que cette compo, enfin en tout cas cette tactique, elle est très difficile parce qu'il faut du temps pour l'assimiler, alors qu'elle a juste été testée pendant les entraînements. Donc moi, ça m'inquiète un peu, mais de toute façon, il n'y avait pas d'autre choix des champs. Autre chose, un point important, c'est la situation aussi de Lemar, parce que Lemar, à Monaco, il jouait arrière-gauche, latéral-gauche, donc il pourrait vraiment peut-être venir dépanner à cet endroit-là, j'en sais rien.
Il n'y en a aucun qui s'en poste Rabiot. Je pense que tout à l'heure, Florent disait que c'est plus confortable de le mettre un peu plus haut, de mettre bas gauche, donc je pense qu'il faut laisser Rabiot. Mais Lemar n'est pas une mauvaise solution. En fait, je pense que la meilleure, c'est mettre Rabiot un peu plus haut. Enfin, je ne vois pas vraiment d'autres solutions.
On verra. En tout cas, c'est ce qui se trame actuellement, manifestement. Petit pronostic, allez, pour ce France-Suisse, vous le voyez comment? Ah bah si, parce que j'ai des médiums dans l'émission. Vous arrêtez pas de dire vous allez voir que ceci, cela. Voilà, on se mouille un petit peu.
Ah, le but est accordé au... au Danemark.
Il n'était pas hors jeu, c'était un plus.
4-0 pour le Danemark. C'est une grosse raclée. Il y a une expulsion du côté des Gallois.
Ça fait mal.
C'est terminé pour Gareth Bale. Et le Danemark qui s'est donc qualifié, c'est quasiment fini, premier qualifié pour les quarts de finale de cet Euro. C'est une petite surprise.
C'est une belle histoire.
Et une belle histoire. Oui, apparemment, il joue à 12. L'âme de Christian Eriksen les a poussés. Et c'est bien beau. Alors, pronostic. Essayez pas de m'embrouiller. Je vois ça.
On est Suisse.
David Ayello.
Un petit 2-0, allez.
Petit 2-0, Gilbert.
1-0 pour les Bleus.
1-0, ah oui, une victoire écrasante, 1-0. Mmh.
Ce qu'il faut.
Stéphane.
4-1 pour les Bleus.
Ah, 4-1 pour les Bleus, avec un but d'Mbappé quand même.
Oui,
tout à fait. 4 buts d'Mbappé.
Non, parce que Cristiano Ronaldo est déjà à 5 buts. S'il veut être le meilleur buteur avant le ballon d'or, il va falloir qu'il commence. Hein. Ouais. Il faut au moins en mettre 2 demain. Donc, genre, on va dire 2, Gilles.
Et vous, Cindy?
Oh là là, 3-1, mais je suis. M'écoutez pas pour les pronos.
3-1. Bon, très bien. Bah, écoutez, on suit ça et puis on verra après contre qui on jouera. Ce sera l'Espagne ou la Croatie, normalement.
Tableau difficile quand même, là où on est. Ah oui.
Ouais. Bon, on a la moitié du tableau la plus difficile. Ah c'est sûr.
Et après, normalement, c'est Belgique ou Italie, si Italie, tout se passe bien, c'est ça.
Je vous dis, les Espagnols, pour l'instant, n'ont pas été exceptionnels, à l'image un peu des Français. Et les Croates, ça monte tout doucettement en puissance. Je ne suis pas sûr que les Français ont un tableau extrêmement compliqué.
Bon, attends, on va déjà régler le cas de la Suisse, on en parlera après, parce que là, vous allez un petit peu trop
juste vite. Juste pour la polo Danemark, les joueurs Danemark, parce que c'est lui qui a fait quand même la passe décisive sur les premiers buts, faut vraiment les surveiller. Et je crois même que les Barça est déçu. C'est une très belle pépite de cet Euro 2020.
Merci Cindy. Prenez pas de commission là-dessus. Hein. Non. Bon, il nous reste un tout petit peu de temps. J'aimerais quand même qu'on parle de cette décision de l'UEFA, cette annonce. Hein, c'était jeudi, la suppression de ce fameux but à l'extérieur qui compte double. Donc c'était instauré en 65. Avant, je vous rappelle qu'en cas d'égalité parfaite après deux matchs, on en jouait un troisième en terrain neutre. Alors est-ce que vous êtes pour ou contre cette suppression de ce truc qu'on a toujours connu? Parce que qui est né avant 65 ici? Personne.
Ah, moi 64, un an avant.
Moi 68.
C'est de votre faute,
ouais, bah non, justement. C'est ta faute. Ce but qui compte double, voilà, en cas d'égalité, but inscrit à l'extérieur, c'était une bonne idée. Mais aujourd'hui, et je suis pas du tout pro instance, UEFA, FIFA, etc. Mais aujourd'hui, il faut rajeunir le foot. Les jeunes se désintéressent et regardent plus le foot. Et c'est vrai que les équipes à domicile, elles craignaient tellement d'encaisser un but qu'elles n'attaquaient plus. Donc si on veut trouver des angles par lesquels les jeunes vont se réinvestir dans le football, il faut tenter des choses. Moi, j'aurais bien expérimenté ça pendant 5 ans. Là, c'est un peu brutal, mais pourquoi pas cette expérience? Pourquoi pas?
Non, moi, je suis triste.
Pourquoi Stéphane?
Mais parce que c'est le foot de quand j'étais petit garçon, où je vais même pas aller très loin, mais je vais aller en Coupe de France où t'as des équipes à l'époque, il y avait des qualifications en aller-retour quand on arrivait à un certain moment, où il y avait des petites équipes qui pouvaient aller faire l'exploit et d'aller gagner à l'extérieur. J'aimais bien cette image-là de pouvoir. Alors Gilles parle de, c'est vrai que peut-être il y a des équipes plus en retenue. Moi j'aime cette histoire de compte double. Est-ce qu'ils ont pas d'autres choses à foutre en ce moment à l'UEFA de nous pondre un truc pareil?
Bah ils nous pondent des trucs tout le temps. On a eu les 5 changements.
Ça a quand même été une fameuse.
Ils ont même retiré la bière des conférences de presse maintenant. Comme sur cette histoire de but à l'extérieur qui compte double supprimé, est-ce que c'est vraiment pour des raisons sportives ou est-ce que derrière il n'y aurait pas une autre raison? Je vous explique le truc. Il va y avoir forcément plus de prolongations, voire des tirs au but. Plus des matchs plus longs, donc plus des grands pubs, donc plus peut-être d'argent récupéré. Est-ce que c'est vraiment une raison sportive?
En tout cas, la raison sportive. Ce point-là, on peut l'avoir en tête et se dire, quand on connaît la façon dont fonctionne l'UEFA, qui est toujours en train de regarder où est-ce qu'elle peut récupérer plus d'argent, on est obligé d'y penser. Ce qu'ils ont mis en avant, c'est un point en tout cas qui s'entend, c'est un point d'équité un petit peu, à savoir que sur les matchs retour lors des prolongations, il y a une des deux équipes qui se retrouve avec un avantage, c'est de jouer
La prolongation à domicile.
Voilà, la prolongation à domicile dans ce cadre-là. Donc ça peut s'entendre effectivement. Mais on a quand même le vrai sentiment que c'est pas la vraie raison, qu'effectivement l'argument économique avec la perte de revenus qui a été liée à la crise sanitaire a propulsé ça. Parce qu'en plus ça a été fait en catimini. Regardez comment ça s'est passé. Il y a 3 semaines, ils ont commencé par dire on va réfléchir à abandonner le but uniquement pendant la prolongation parce qu'effectivement il y avait l'iniquité. Et finalement là, à la veille des huitièmes de finale, un petit peu comme vous savez quand les députés au mois d'août font passer des voix, et ben là des lois, bon, c'était la même chose.
Je suis désolé, là il y a pas de prolongation, on arrive au bout.
Je peux dire que j'étais déçu.
Vous êtes déçu, Cindy?
Non, mais c'est déçu. C'est vraiment décevant qu'il s'est mis en place cette règle. Alors certes, il y aura plus de dramaturgie et notamment de l'argent avec la prolongation, tout ça. Mais c'est le football qu'on connaît. Et puis, il ne faut pas oublier les côtés émotions que ça donnait aussi, oui, de jouer à l'extérieur, de marquer à l'extérieur, enfin, d'avoir des buts par rapport à ça. C'était génial.
Ça devenait donc, c'est vraiment... complexe, cette règle aussi, quand même, dans le football moderne. Il fallait faire des calculs, des trucs.
Ouais, mais quand on dit injustice, ça veut rien dire.
Cindy, coup de sifflet final. Attention, là, je vais sortir le carton jaune.
Pas de prolongation.
Merci à tous d'avoir été avec nous. On refait le match. Merci David, merci Jim, merci Cindy, merci Stéphane.